On est là, on vous a pas oublié. Vous êtes à Boulevard 102.1 Gravel en retour qui se poursuit jusqu'à 18h. Si vous venez de vous connecter, vous êtes un peu perdu. Vous dites, me semble, à voix un peu plus aiguë que normalement. Mais Denis Gravel n'est pas là aujourd'hui. Il sera de retour demain. Antonine Iacarini qui est avec moi. Véro Bergeron également. Je m'appelle Audrey Pinchot. Quoi que ce soit, 88-971-1021. Si vous êtes sur les routes en ce moment, ça commence à ralentir. Capitale, direction Est, entre autres, à la hauteur de Robert Bourassa. On le sent déjà. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Wilfrid Amel et la Capitale, un certain ralentissement à prévoir également. Je vous dirais qu'Henri IV Sud, à partir de Versant Nord, ça ralentit jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Et pour ce qui est de la 20, c'est direction ouest que ça se passe à la hauteur de Chemin des Îles. Peut-être prendre le temps de vous rappeler aussi, un peu comme la nuit dernière, là, ce soir à partir de 21h jusqu'à 5h30 demain matin, pont de Québec fermé dans les deux directions dû à des travaux. Fait que vous comprendrez que le détour se fait par le pont Pierre-Laporte. Pas l'impression que ça va créer énormément de ralentissement étant donné que c'est à partir de 21h. Le pire était surtout hier. Quoique, si jamais, 88-971-1021. Présentement, à l'extérieur, on est à 8 degrés. Cette alternance soleil-nuage, on est pas mal plus dans le nuage, je vais vous dire. Puis, on a eu une super belle fin de semaine, mais on paye cette semaine. Parce que dans les prochains jours, on est autour de 10 en général. Tu sais, demain, on est à 7 degrés, possibilité d'averse à 30 %. Pour ce qui est de jeudi, 14, c'est de la pluie. Vendredi, 13, nuageux, possibilité de pluie. Samedi, on est à 11, nuageux. Dimanche, la pluie à 10. Puis, il y a même des possibilités d'averses de neige lundi prochain, selon Environnement Canada. Je préfère rester dans le déni, mais je vous avertis quand même. Donc, on va profiter, j'ai envie de dire, du fait qu'il ne pleut pas, mais ce sera nuageux pour la semaine. Dans les prochaines minutes, on va faire un tour d'actualité financière avec nul autre qu'Alex Leblond, qui est planificateur financier. Puis c'est des sujets qui sont somme toute très intéressants. J'ai l'impression qu'on va parler à nos sportifs, entre autres, les gens qui aiment le sport un peu, avant de parler aux gens en couple. Alex, premièrement, salut.
Salut.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que tu avais un après-midi à s'occuper. Les séries. On s'en va en série. C'est bon pour nous,
parce que là, je parle aux sportifs, mais je suis pas sportive et j'adore celui des séries de hockey.
Oui, à ceux qui aiment le sport, j'en
ai. Les amateurs de sport.
Je suis pas très sportive non plus, puis ça m'arrive de m'asseoir devant TV. C'est bon, j'imagine, ça, pour, mettons, les commerces locaux, entre autres, dans le coin de Montréal. Quand le Canadien est en série, on s'énerve, on va dans les restos. À quel point?
Ben, pas juste à Montréal. Hein. Parce qu'hier, il y a des données de Moneris qui sont sorties. Okay? Moneris, c'est une business de solutions de paiement. Là. Fait que, tu sais, tous les terminaux là, auxquels où on passe notre carte, là, ben, eux autres, ils vendent ça. Fait qu'il y a des restos qui ont ça, il y a des bars qui ont ça. Puis ça leur donne un paquet de données. Puis à chaque année, ils sortent ça, que ce soit Montréal, Ottawa, Edmonton, les villes où il y a des équipes de la Ligue nationale. Parce qu'ils sont capables de dire, OK, ben, quand il y a un match, voici ce qui se passe dans un rayon de, mettons, 1
km variations dans le fond.
5 km de l'aréna, voici ce qui se passe dans la ville en cas de victoire, en cas de défaite. Ils ont accès à toutes les données de dépenses, eux autres. Puis ils sont sortis hier en disant, ouais, là, pour les équipes qui vont être en série cette année, donc Montréal, Ottawa, Edmonton, historiquement, ça a été des bonnes affaires. Tu vois, l'an passé, là, en série, le Canadien, les dépenses resto ont bondi de 41% au match numéro 3, ça c'est quand il était à Montréal, puis 45% au match numéro 4. Ottawa, c'est un petit peu la même chose, mais l'aréna à Ottawa, il est dans le milieu de nulle part. Là. Fait que c'est
à Canada, là, la seule affaire que tu as de proche, c'est des athlètes pour aller magasiner. C'est un peu triste.
Fait que ça n'a pas le même impact.
Non, ça n'a pas le même impact. T'sais, Montréal, ce qui est bon, c'est que l'aréna, tu pourrais pas être plus au centre
exact.
Que ça. Tu es au centre du centre. En finale, en 2021, là, ça, c'est fou. Puis en plus, 2021, rappelez-vous, c'était
tout était fermé.
Le COVID, oui. Techniquement. Là.
Ah, puis il n'y avait pas changé les règles, puis on s'était rendu comme super loin, puis ça allait full bain.
Oui.
Ben oui, on s'est rendu en finale.
Il y avait eu la bulle canadienne contre la bulle américaine.
Oui. Supposément qu'il y avait 5000 personnes dans les estrades, mais mettons qu'on avait le 5000 relax. Là. 160% la hausse de dépenses dans les alentours du Centre Bell, 245% partout à Montréal, puis partout au Québec, là, quand tu prends ces chiffres-là, c'était plus 137%.
C'est fou, hein? Ouais, parce que là, tu as les cages, tous les restaurants, les bars sportifs qui offrent la game, mettons, qui se ramassent plein. Là.
Exactement. Fait que, tu sais, clairement, le fait que le Canadien, si on prend notre exemple ici au Québec, soit en série, pour les restos, pour les bars, c'est massif. Là. Il y en a qui vont faire ou ne pas faire leur année juste en fonction des performances du Canadien. Puis des fois, les gens se demandent, tu sais, à Québec, on avait parlé des Kings, mais un paquet d'affaires. Tu sais, quand le gouvernement met
quand le gouvernement s'en mêle.
Bien, les gens se posent la question, des fois, pourquoi le gouvernement fait ça? Bien, entre autres, puis je te dis pas que c'est une bonne chose, mais un des thinking derrière, que ce soit au Québec ou ailleurs, là, quand on, parce que les arénas là, sont construits encore, là, grosso modo, à peu près à 73 % par les gouvernements. Mm. La question à savoir pourquoi vous faites ça, bien, c'est entre autres ça. La thèse de certains gouvernements, c'est de dire hey, si on construit cette arène-là, si on participe au fait
qu'il y a une équipe
ici, ça fait rouler l'économie. Rendu là, les propriétaires sont bons pour gonfler des chiffres des fois, là, mais ça reste qu'il y a une réalité là-dedans.
Fait que ça améliore vraiment l'économie locale au sens large.
Bien, là où les études ne s'entendent pas, là, c'est que justement, toutes les dépenses, mettons, le Canadien est en série, le Canadien est en finale, ça dépense plus dans les alentours du Centre Bell, ça dépense plus justement dans les cages, dans les Boston Pizza.
Bien, tous les restaurants sportifs, c'est difficile de se trouver des places, là.
La question qu'on se demande, c'est sûr que nous autres, si nous quatre autour de la table, on a une business de resto sportif, c'est sûr que c'est bon pour nous autres. Par contre, d'un point de vue global, il y a quelque chose en économie qui s'appelle l'effet de substitution. Le 122$ que je vais flamber à cage là, pendant la game du Canadien... Là,
tu le dépenseras pas ailleurs.
Ben, je le dépenserai pas ailleurs, mais je l'aurais... Si c'était pas du Canadien, je l'aurais flambé quelque part dans l'économie locale quand même. C'est pas vrai que je prends un 122$ dans mon CELI puis que je m'en vais le brûler à cage.
Mais tu le concentres à un endroit où tu l'aurais peut-être pas concentré autrement.
Oui, mais ça, c'est bon pour cet endroit-là. Reste que d'un point de vue économie au sens large, le 122$, il aurait circulé.
Ça ne crée pas de la richesse au Québec.
Oui, c'est ça.
Là.
Ça fait pas faire plus d'argent. C'est plus que c'est déplacé.
Bien, ça fait aussi faire de l'argent, parce que tu le vois, là, quand il y a des séries de hockey, tu vas aller à l'épicerie, là, puis ce qu'on va te mettre en valeur, là, ça va être les chips, ça va être les ailes de poulet, les filets, les ci, les ça. Fait que c'est comme si on prenait certains pans de notre consommation puis qu'on les favorisait avec nos défenses.
Ça n'a aucun sens. Mais justement, au Québec, est-ce que c'est un phénomène, mettons, qui est limité aux Canadiens? Parce que là, on parle beaucoup de ça, mais j'ai le sentiment que de plus en plus, on s'intéresse à d'autres sports aussi. Là.
Oui, puis tu vois, moi, je pensais que c'était très canadien-centrique, là, parce que je me rappelle, il y a une couple d'années, là, moi, je suis souvent... Là, c'était pas à cash, fois ça, soit là, mais moi, c'est mon social, c'est ça. On va voir des games, on va voir les séries, puis c'est ça qu'on fait. Puis il y avait une série, la première ronde, il y a une couple d'années, puis on était là, on regardait, c'était New York-Pittsburgh, c'était l'année que Louis Domingue a joué, là, pour les connaisseurs. Non, pas...
Bruit de cricket.
Ouais, c'est ça, là, t'as pas la bonne crowd pour te mettre à aller trop loin dans le hockey.
C'est cette année-là, puis tu sais, c'était pas le Canadien, naturellement. Puis on s'était fait sortir du resto, là. Pas parce qu'on beuglait, c'est juste que le resto fermait, là.
Puis vous étiez les seuls qui restaient là.
On était comme, il y a une game, c'est les séries, mais vu que c'est pas le Canadien, ça intéressait personne.
Puis à l'inverse, des fois, il y a des buzz. Quand les Raptors s'étaient rendus très, très loin au basket, d'ailleurs, là, ils sont qualifiés pour les séries, c'était We the North. On avait fait des rassemblements à Québec. Il y avait des gens dehors, dans des cours. Il y avait des bars sportifs qui affichaient complet, mais ça avait été une espèce de buzz national qui avait collé.
Mais tu vois, le Jean Bédard de la cage, lui dit qu'auparavant, c'était très canadien-centrique. Mais là, de plus en plus, depuis quelques années, on élargit nos horizons. Justement, les Raptors, c'en est un bon exemple. Les Jays, l'an passé, c'en est un bon exemple aussi. On est moins estiqués sur les Canadiens qu'on était.
Mais on aime ça, se créer des événements
absolument
pour se rassembler.
Et on l'a fait pendant les Olympiques le matin.
Oui, toute excuse est bonne. Ça fait profiter beaucoup de monde, beaucoup de commerce, évidemment. Tout ça, tu nous as parlé de chiffres, mais il y en a qui gagnent plus que d'autres dans tout ça. Là. Jeff Molson, entre autres, en profite en tabarnouche.
Ben, c'est sûr, parce que rappelez-vous que les joueurs, tu sais, mettons, Nick Suzuki, il fait quelque chose, je pense, c'est 7,8 millions par année en moyenne. Noah Dobson, il fait 9,5 millions par année en moyenne. Les gars sont juste payés en saison régulière.
Ils ne sont pas payés en série.
À partir des séries, c'est du bénévolat. Fait que pense à ça deux minutes.
Ben là, du bénévolat.
Ben, je ne t'ai pas payé.
Non, mais c'est parce que ça va leur apporter au bout du compte. Ils vont avoir plus de contrats de commandite par la suite. Puis non.
Ouais, mais toi,
leur valeur augmente aussi.
Moi, présentement, je suis dans le livre comptable de Jeff Molson.
Ouais.
Lui, sa plus grosse dépense dans l'année,
c'est ses joueurs.
C'est salaire. Mm. Puis là, à chaque fois qu'il y a un match de plus, ben lui, sa plus grosse dépense n'est plus là. Mm. Il fait que faire du profit. Puis c'est quoi une de ses plus grosses dépenses après salaire? C'est le voyagement. Jeff, là, parce que les gars, ils se ramassent pas à Dallas tout seul. Là. C'est l'avion, puis c'est le gaz. Pis...
Fait
que pendant
c'est
la saison, tu t'en vas dans l'Ouest, tu voyages beaucoup. En série, à moins que tu te rendes en finale, tu es toujours dans l'Est. Tu es toujours à côté de chez vous. Là. C'est bien rare que tu vas aller vraiment, 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 vraiment
c'est
loin.
C'est vrai que t'aimes pas Montréal. Non, c'est pas vrai.
Ouais. Vu que t'aimes pas, c'est peut-être un peu une exception. Là. Mais tu sais, t'as un petit peu moins de voyagement.
C'est vrai.
Fait que ça coûte moins cher. Fait que Jeff Molson, lui, il pense à ça. Son modèle d'affaires, c'est ton staff travaille le plus fort possible pour faire du bénévolat pendant 2 mois, puis toi, ça te rapporte. Fait que c'est quand même un pas pire modèle d'affaires. Fait que plus le Canadien se rend loin, t'sais, on estime que dans les poches de Jeff Molson, là, un match de série, c'est entre 1,5 et 2 millions de
profits. C'est incroyable.
Alors qu'un match de saison, ben, tu as plus de dépenses.
C'est débile pareil. Alex, autre sujet qui est super intéressant parce que ça touche énormément de gens, surtout en temps de crise du logement, entre autres. Moi, mes parents m'ont toujours... En fait, j'ai été élevée en les voyant se développer avec cette devise-là. Le fait de bâtir ta relation sur une séparation, de toujours être capable de prévoir que d'un coup que ça plante demain matin...
Tes parents étaient de même?
Ils le font encore. Ils me font tellement rire. Là. Ils notent, ils ont un cahier, ils achètent, ils ont des grosses dépenses, mettons, ou des grosses affaires. Ils notent tout parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble.
Splitwise, ça peut faire aussi.
Oui, aujourd'hui, là, mais dans le temps, Splitwise n'était pas là. Qui tiennent un registre un peu de ça, puis où sont rendus financièrement pour être capables de bâtir leur relation sur leur séparation. C'est toujours ce qu'on a utilisé comme phrase, puis ça me fait rire. Mais j'ai comme l'impression qu'on est dans une ère où c'est plus vrai que jamais, où on devrait, mais on n'est pas nécessairement capable.
Ben oui. Ça, en fait, ma réflexion est partie d'un article qu'il y avait en fin de semaine dans le Journal du Québec qui était titré « Endettée, cette mère de famille pourra-t-elle se séparer? »
C'est épouvantable.
Puis ça détaille le cas d'une dame qui avait 2 enfants, troisième qui n'était pas tout à fait prévu, fait que ça fait un poids sur les finances. Puis elle, le problème qu'elle a, c'est que elle veut se séparer, mais elle n'est pas capable d'un point de vue financier. Mm-hmm. Fait qu'on s'entend, c'est pas quelque chose de super le fun à vivre, là, particulièrement dans son contexte à elle. Puis elle explique que, hey, historiquement, son conjoint faisait plus qu'elle, mais il s'est toujours obstiné pour payer tout 50-50 parce qu'il était deux, puis 100 divisé par 2, ça fait 50. Là. Fait que, bon, elle était dans une situation un petit peu particulière, mais ça m'a suscité la réflexion parce que, tu sais, on parle de maison, on parle de voyage, on parle d'un paquet d'affaires. Là. Puis la recommandation qu'on fait souvent aux gens, c'est pose-toi la question, hey, la maison ou le bail que je m'apprête à signer, ou est-ce que tu serais capable de le signer seul?
Mais la majorité des gens, la réponse, c'est non. Chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, il y a tellement de textos qui entrent pour dire « Hey, anonyme, c'est malheureux, mais moi, j'ose pas me séparer parce que je me retrouve dans la rue. » Ouais. On entend énormément parler de ça, des gens qui vont soit se mettre en couple ou se créer des colocations ou rester plus longtemps.
La crise du logement a amplifié encore plus ce phénomène-là. Il y a des gens qui voudraient quitter. T'sais, peut-être même qu'il y aurait théoriquement les moyens. Là, on voit la mère de famille endettée. Là, c'est vraiment une situation qui est extrêmement triste, mais qui ne trouve simplement pas de logement pour partir.
Moi, je connais des gens qui sont séparés puis ils se sont fait une chambre au troisième puis une chambre dans le sous-sol. Ouais. Fait qu'ils sont comme en colocation jusqu'à ce qu'un des deux rencontre quelqu'un d'autre puis qu'éventuellement, ils puissent quitter cette situation-là. C'est épouvantable quand tu y penses. Là.
C'est vraiment rough. Puis, ultimement, tu regardes, OK, 2 personnes qui sont ensemble, qui parce que même, tu sais, les 2 personnes ont une grosse disparité de revenus. Parce que moi, je l'ai vu dans le concret, ça. Fait que, mettons, la personne qui fait plus va payer, je sais pas moi, 75 % des dépenses, puis la personne qui en fait moins va payer 25 %. Ben moi, j'ai vu des situations où, OK, la personne qui paye 25 %, ben devient dépendante du fait que quelqu'un paye 75. Fait qu'elle, justement, si elle veut s'en aller, si elle est plus confortable, si ça peut être une séparation normale, ça peut être peu importe quoi, là, c'est pas besoin d'être une situation, comment je pourrais dire ça,
catastrophique,
malsaine.
Ouais.
C'est juste quelqu'un qui est tanné et qui veut s'en aller. Ben elle s'est placée dans une situation où, tu sais, dans une optique d'équité, ben faut pas non plus que celui qui bénéficie de ça ou qui va payer moins dépend du fait que quelqu'un paye pour lui. Fait que c'est là où
il va avoir une chute de train de vie. Il y a aussi, j'ai entendu régulièrement que les femmes avaient tendance un peu à se faire avoir, c'est-à-dire, tu parlais tantôt, monsieur ou madame fait plus d'argent, puis on est dans le 50-50, mais en plus, les dépenses qui prennent de la valeur, par exemple, je vais m'occuper, moi, de prendre des REER, puis je vais m'occuper de payer l'hypothèque, achète des meubles, puis des coussins, puis des tapis, puis des affaires, puis que finalement, la séparation, ce qui a vraiment une valeur appartenait finalement à monsieur s'ils n'étaient pas mariés, par exemple. Est-ce que les femmes seraient plus touchées que les hommes en cas de séparation? Moi, en tout cas, de l'expérience que je vois autour de moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que les femmes, peut-être, je sais pas, organisent moins leurs affaires en conséquence, pensent peut-être pas non plus à la séparation, je sais pas.
Bien, à la base, on a encore un problème de disparité de revenus. Les hommes font encore en moyenne, je pense que c'est rendu 27 % ou entre 27 et 30 % plus qu'une femme en moyenne. Fait que naturellement, ça crée cette hiérarchie-là. Une manière de faire que j'ai vue récemment dans ma clientèle puis que j'aime beaucoup, c'était justement un cas où les deux, historiquement, un homme et une femme, faisaient à peu près le même montant, l'homme, ça s'est mis à mieux marcher ses affaires. Fait que là, il y a comme maintenant une grosse disparité de revenus entre les deux. La fille, elle veut pas. Elle veut continuer de payer 50-50.
Moi, ça a été ça.
Justement pour éviter que je dépends de l'autre ou je dois de quoi à l'autre. Puis. Mais ça fait pas de sens. C'est parce que là, elle, c'est clairement un plus gros pourcentage de son revenu, mettons, pour le loyer que son chum.
Fait qu'elle s'enrichit pas, dans le fond.
Ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, ils ont fait un deal, puis ils se sont dit, garde, si pour ta sécurité et ton indépendance, tu veux payer 50, parfait, fais ça. Mais tout ce qui est les dépenses plus le fun, là, fait que les voyages, les restos, tout ça, ben cette personne, celle qui fait moins en
l'assume
beaucoup moins.
Fait que
moins.
Ça revient à peu près au même.
Exactement. Ça revient au même, mais si elle, elle veut s'en aller demain matin, ben est capable de le faire parce qu'elle ne dépend pas du salaire de l'autre pour vivre puis payer ses enfants.
Alex, est-ce que ça se fait de s'asseoir avec son planificateur financier justement avant de se mettre en commun, juste pour s'assurer la ceinture et les bretelles. Voici, je veux être capable de, s'il se passe quoi que ce soit, t'sais, prévoir le pire. Ça peut-tu être une manière de faire les choses?
Ça se fait, mais il y a très peu de gens qui veulent le faire parce que...
C'est l'équivalent de dire « ma relation ne marchera pas ».
Pas romantique.
Ben, c'est pourtant... qu'on vient mettre une démarche rationnelle dans quelque chose qui fondamentalement ne l'est pas.
Parce qu'on est émotif.
Fait que justement, tout ce qui est... attends, je vais te donner un exemple. J'ai un client l'autre fois qui s'est acheté un Sidou. Là. C'est une affaire de fou. Là.
Fait des lumières, puis tout ça.
Il me l'a dit après, puis... Parce qu'il m'en a parlé un peu avant, puis là, j'étais comme, tu veux-tu vraiment savoir ce que j'en pense ou non, là? Il dit, non, on s'en reparle. Puis là, trois mois après, hey, je me suis taché le Sidou. Fait que, tu sais, les gens, ils savent, là. Quand ils font une décision, ils sont pas stupides, là. Il y a personne qui... C'est rare que quelqu'un fait un mot financier un peu con, puis qu'il y apprend que c'est con, puis il est comme,
on le sait.
Le monde le sait, là.
Mais puis... non, puis on est très émotifs là-dessus parce qu'on se dit, on a juste une vie à vivre, hein, l'argent, ça revient.
Toutes les justifications sont bonnes.
On se convainc facilement.
Puis tu sais, c'est correct, là. T'sais, moi, mon but, c'est pas d'être rabat-joie là-dedans. Là. Ça m'a coûté genre 5$, là, tantôt. Là. Un beau monster. J'en fais plein de décisions financières stupides, là. Je suis pas au-dessus de la mêlée, là. Je suis dans la mêlée là-dessus. C'est juste que je vois un paquet d'affaires où, justement, est-ce que tu peux le faire? Tu sais, t'asseoir avec le planificateur financier puis dire, OK, voici c'est quoi scénario 1, scénario 2, si ça marche, si ça marche pas. Mm. Bien sûr que tu peux le faire. Ça va faire plaisir de t'aider, mais justement, mettons qu'en termes de romance, là, c'est pas ce qu'il y a de plus gagnant.
Mais à quel moment, mettons, tu le fais? C'est-tu...
Avant qu'il soit trop tard.
Ben, c'est-tu avant d'habiter ensemble? C'est-tu avant d'avoir des enfants? Y a-tu comme un moment dans la timeline qui est peut-être à prioriser pour, justement, avoir ces discussions-là? Parce que c'est jamais des discussions le fun, là. Moi, ça fait pas longtemps que je suis avec mon amoureux, puis on s'entend-tu que on est comme dans cette période-là où on a le goût d'aller au resto tout le temps, puis de faire plein d'affaires, puis des activités, puis des ci, puis des ça. On n'aime pas s'asseoir puis prendre le temps de parler d'argent, là. Faut le faire.
Non, c'est ça. Ben, faut le faire. Puis je te dirais que le moment où la majorité des gens vont le faire, ce qui est un bon moment, c'est à partir du moment où tu as des intérêts financiers en commun, tu sais. Ça fait trois semaines que tu es ensemble. Là. Tes seuls intérêts financiers en commun, c'est OK, toi, tu payes les billets de cinéma, moi, je paye le popcorn.
Ah, c'est ça.
Des fois, il y a des chicanes dès le début d'un couple. Tu sais c'est un red flag. Une question pour toi, avec tes observations, est-ce que quand il y a une grande disparité de revenus, déjà, il y a une zone de risque plus grande qui aide des conflits, des problématiques, des inéquités? Est-ce qu'on serait mieux de se matcher avec du monde qui font le même salaire que nous autres?
Je sais pas de réponse claire à ça, mais assurément que. Je vais te donner un exemple, puis celle-là, je ne peux pas tant l'identifier, mais je ne te dirais même pas c'est quoi la relation par rapport à... Mais c'est une personne qui a un chum qui fait énormément d'argent.
OK.
Fait que ça donne un rythme de vie qui est inflationné au bout versus ce qu'était la réalité antérieure. Là, une fois que cette relation-là se termine, ton nouveau minimum psychologique de c'est quoi ton confort...
Pas mal plus haut, hein?
C'est plus ce que c'était il y a 2 ans, là. Ouais. C'est ce que c'était hier, là. Fait que c'est pour ça que, oui, il y a un risque à ça, là. Mais, comme je te dis, là, on le pense de manière rationnelle, alors que...
C'est pas comme ça que ça marche, là, dans la vraie vie, en début de couple, effectivement.
Mais assurément que, oui, il y a un risque particulièrement pour... C'est la personne qui est celle qui fait de l'argent. Il n'y a pas de risque pour elle, là, dans la mesure où dans ce scénario-là, elle a le gros bout du bâton économique.
Oui, mais il y a des gens qui viennent frustrés de payer davantage, qui ont l'impression de faire abuser d'eux. Fait que j'ai l'impression que ça crée des petites zones de risque, les grandes disparités.
Bien, de là, le fait de l'aborder assez rapidement. Là. Moi, mon Dieu, qu'on dirait que je ne voudrais pas être la personne qui a l'air de profiter de quoi que ce soit. Mais un moment donné, il faut que tu sois logique aussi.
Mais le premier qui apporte l'idée, par exemple, d'un prenup.
Oui.
C'est illégal,
c'est pas évident,
ici.
Là. Oui, je comprends, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que cette discussion-là, c'est pas évident.
Mais tu vois,
à
une
porter,
chose
là.
Que je trouve super intéressante, c'est que les nouvelles affaires de patrimoine familial qui sont rentrées en compte, c'est en juin dernier, je pense, de mémoire.
Juin dernier, mais ça, c'est juste dans le cas où il y a des enfants.
Oui, c'est ça. Si tu as des enfants, mais tu sais, ça fait en sorte que tu réfléchis, il me semble, deux fois avant de t'embarquer, puis tu n'as pas le choix d'avoir ces réflexions-là au niveau financier.
Mais ça te prend quelqu'un qui est quand même. Qui est en même place que toi d'un point de vue mental. Là. Je vais te donner un exemple avec ma blonde. Donc, nous, on est très romantique dans le quotidien, là, dans le sens où on se fait des attentions, on se fait des surprises, mais
tu
on n'est pas
des
irrationnel. Ouais. Non, ben, elle m'a vu tantôt sa caméra avec un monster, elle n'était pas contente. Mais on n'est pas irrationnel quant à la planète sur laquelle on vit. Dans la mesure où, hey, ça se peut-tu que dans 40 ans, on ne soit pas ensemble?
Ben, regarde.
Ça se peut très bien. Moi, je peux changer. Toi, tu peux changer. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas à matin, après-midi, à soir.
Je vais te lire un texto, puis tu vas voir, ça rentre exactement là-dedans. 24 ans que je suis avec ma conjointe. Je gagne 4 fois son salaire, entre autres parce qu'on a décidé que c'est moi qui allais pousser le volet carrière et qu'elle allait plus se concentrer sur les enfants. Tout est aux deux noms. Moitié-moitié, même si je paye beaucoup plus, et c'est normal comme ça. Il dit, j'espère qu'on ne se séparera jamais, mais pas pour des raisons financières, tu sais.
Ouais. Mais tu vois, c'est une bonne manière de le faire parce que ça a été fait en amont.
Ouais.
C'est lui, là,
c'est conscient.
C'est sûr que si le deal, c'est « Hey, c'est écrit nulle part, mais inquiète-toi pas, on va prendre soin de toi », ben le jour où ça pète, il n'y a pas de preuve de ça nulle part. Là. Alors que justement, la maison, si initialement est aux deux noms, ben ça se peut là, qu'il s'obstine à un moment donné, mais crime, c'est notarié. Là. Fait que tout le monde est protégé.
Alex, j'ai envie qu'on termine en parlant de quelque chose qui est sorti dans les nouvelles dans les derniers jours. Puis je me souviens que quand Véro a fait la nouvelle, je me suis dit, il me semble que c'est pas la plus belle des nouvelles par rapport à Desjardins. Puis sa fameuse carte de crédit conjointe. Puis là, je sais que Véro, tu as les détails parce que, il me semble, ils se sont ravisés. Là.
Ouais.
Mais où tu étais responsable, finalement, de la carte de crédit autant que l'autre si tu l'utilisais. Fait qu'on est ensemble, puis toi, Alex, puis je dépense comme une malade mentale, bien, t'écopes. Puis ça, tu vois, je trouve ça quand même épeurant.
Ben en fait, la base de la carte de crédit conjointe, c'était ça. Les deux étaient responsables.
Là, c'est
là,
un
ce
des
que
deux.
Eux enlevaient, c'est que la caisse décidait qu'il y avait une personne des deux qui était la détentrice principale, puis l'autre était... Puis cette personne-là était l'unique responsable de la dette, la seule à se construire un crédit aussi, puis l'autre était un utilisateur, puis il n'avait pas nécessairement accès à toutes les informations parce que c'est le détenteur principal qui, lui, gérait le tout. Fait que là, il y avait différentes inquiétudes là-dedans. Justement, qu'il y en a un des deux qui dépense plus. On a parlé d'abus, de contrôle de dépenses, etc., etc. Desjardins a été obligé de reculer là-dessus puis de faire les choses un peu différemment.
Oui, bien, en gros, ils font beaucoup de changements de système. Là,
ouais.
J'ai l'impression que...
C'est à cause d'une compagnie qu'ils ont mis en place.
Oui, ils avaient développé beaucoup. Parce que l'offre de la carte de crédit conjointe, de la manière dont Desjardins le fait actuellement, ça existe à peu près pas ailleurs sur le marché. T'sais, la majorité du marché est exactement là où ils voulaient s'en aller avec ces changements-là. Mais tu sais, c'est pas, on en a fait un gros cas, là, mais ça reste qu'il y a une seule institution financière au Québec qui offre ça de façon élargie, c'est Desjardins.
Mm-hmm.
Puis parmi les membres de Desjardins, c'est à peu près 10% des gens qui sont dans cette offre-là. Là.
Puis qui avaient peut-être choisi de faire affaire avec Desjardins à cause que cette offre-là était disponible.
Mm. Absolument, mais ça reste que, je veux dire...
C'est marginal.
Moi, ma recommandation, c'est pas de carte de crédit conjointe. Puis dans un monde idéal,
moi, je me ferais pas,
confiance. De compte conjoint non plus. Là.
Hey, mais ça que... Je voulais aller là, il y a un texto qui est entré, ça
on
fait 15 ans.
On peut-tu faire ça comme chronique à un moment donné?
Ça vaudrait vraiment la peine de l'éplucher. Nous, ça fait 15 ans en couple, 2 enfants et nos payes vont dans le compte conjoint. Et c'est ce compte qui paye les billes, l'hypothèque, char, Costco et compagnie. Même si nos salaires sont différents, c'est pas important. C'est tout considéré 50-50 dans la mesure où l'argent va en même place. Puis écoute, je vais te la poser rapidement, repartons pas pour 10 minutes, là. On se fera vraiment une chronique, là. Mais pourquoi, pour toi, c'est pas une bonne affaire? Parce que moi, c'est une question que mon chum m'a posée il y a pas longtemps. On veut-tu faire ça dans notre vie, avoir un compte conjoint? Puis j'étais comme, ah!
Il y a une différence entre un conjoint marié et un conjoint de fait. Au Québec, on est les rois de l'union de fait. Il y a personne qui se marie. Puis là, le conjoint de fait, d'un point de vue légal, là, moi, j'existe pas légalement pour ma blonde. Ma blonde n'existe pas légalement pour moi. Même chose, toi, Audrey, avec ton chum.
Ouais.
Fait que si tu n'as aucune protection légale de quelque manière que ce soit, c'est de la folie furieuse de mettre ses finances en commun. Si t'es marié, ça fait du sens. Vous avez une protection légale l'un pour l'autre. Fait que avoir un compte conjoint avec un conjoint de fait, c'est l'équivalent d'avoir un compte conjoint avec la personne que je croise sur la rue tantôt au hasard. Là.
Alors qu'avoir un compte qui existe où les deux transfèrent une portion pour payer des dépenses courantes, on n'est pas dans le même game que le compte conjoint où tout le monde met tout en commun.
Il y a une distinction à ce niveau-là. Fait que c'est pas vrai que tu peux remédier à ce problème-là. Tu peux faire une convention de vie commune, encore là, on vit sur la planète Terre, il n'y a personne qui fait ça. C'est pour ça que si tu n'as pas de protection légale qui existe,
fais pas ça.
Ben, de mettre tous tes actifs en commun. On parlait de risque tantôt, Antonine. tu viens d'ouvrir la porte grande ouverte à un risque pas pire. Surtout que, soyons super rationnels, on est 4 personnes autour de la table présentement. Il y a un seul des 4 couples qui va durer jusqu'à la fin de notre vie. Là.
Ouch!
C'est statistique. Là.
C'est le fun, t'es positif, Alex.
c'est ça pareil.
Okay, Alex Leblond, planificateur financier.
Tu viens de détruire Audrey.
Bonne journée à toi aussi, mon ami. On s'en parle bientôt. Et on revient dans quelques instants. Lendemain de partiel, Carney majoritaire, on en parle avec Antonine. Gravel.